Je vais vous parler du transfert des sépultures militaires à travers deux exemples précisément rencontrés en Lorraine ces dernières années, et de façon très très récente pour le cimetière de Spincourt, puisque son étude n'en est qu'au balbutiement, on va dire. Et vous allez avoir les premiers résultats. La Lorraine, qui est quand même une terre de passage, a connu ses trois grandes guerres de 70, 14-18 et 39-45. Et pour celle de 70, une partie de son territoire est restée bien marquée, essentiellement par des sépultures que voici, que l'on retrouve encore, par exemple, sur le plateau de Gravelotte. Hein, vous avez comme ça, dans les champs, au milieu des blés, ces grandes croix blanches qui, en fait, sont simplement signalent l'emplacement de grandes fosses avec parfois plusieurs centaines de corps français et prussiens mélangés. Puisque en 70, on inhume rapidement sur le champ de bataille, quitte après, dans les années qui suivent, à faire quelques translations. Bien entendu, un peu plus tard, dans les décennies qui ont suivi, des petits ensembles funéraires, de vrais petits cimetières ont été créés. Vous avez celui-là de Saint-Privat, un des grands champs de bataille du 18 août 70. Et un petit peu partout, dans les villages, au bord des routes, vous avez tout un ensemble de monuments commémorant le passage et les combats de divers régiments. Donc ici, vous avez un des monuments qui subsistent de la bataille de Saint-Privat, avec un magnifique casque teutonique qui doit faire à peu près 2 mètres cubes, pour vous donner à peu près une idée de la taille. Donc la bataille de Saint-Privat, la voici. 18 août 70, comme je vous disais, et en fait elle couvre bien entendu plusieurs communes. La commune de Sainte-Marie-aux-Chênes, tout en haut, à droite de votre écran, Saint-Privat, où ont eu lieu le plus gros des combats, et puis en bas, et au centre, vous avez la commune de Saint-Aille, sur laquelle, il y a quelques années, nous avons pu faire une observation intéressante. Lors d'un diagnostic archéologique mené par l'INRAP, préalablement, en fait, à une extension d'entreprise. En fait, maintenant, il y a un grand parking avec plusieurs milliers de véhicules, puisqu'il y a une usine de construction automobile à côté, la Sovab. Nous avons découvert cette structure qui ne recèle en fait que une sorte de semis d'ossements et de fragments d'ossements et d'objets métalliques, des boutons, vous allez en voir quelques-uns, divers boucles, etc. Donc sur le coup, bien entendu, grâce aux objets métalliques, on a réussi à la dater, mais on s'est un peu posé la question, qu'est-ce qui est arrivé à ce brave homme, quoi. Voici à gauche quelques-uns des objets, donc les fers de bottes, les boutons d'uniforme, les boucles, et ici une balle de fusil de raise en plomb qui n'a pas été tirée. Vous voyez sur la fiche de droite, la fiche de conservation des ossements, qui ne reste pas grand-chose. Moi, ce qui m'a un peu marqué quand même, c'est l'extrême fragmentation du crâne et des cervicales. Après, le fait qu'il ne reste que quelques os au niveau des mains et des pieds, ça ne m'a pas trop surpris, puisque nous sommes effectivement dans le cadre d'une translation de sépulture évidente après-guerre. J'ai essayé de resituer un peu ce qui s'était passé, et en fait, dans les archives, j'ai retrouvé une publication de Léon Goulette, qui s'appelle l'entrevue de Saint-Aille à Montvilliers, 17 juin 1893. En fait, qu'est-ce qu'il relate, c'est que donc 23 ans après la bataille de Saint-Privat, et bien sur le site même, l'armée allemande, donc qui occupe dorénavant une partie de la Moselle et donc qui est basée essentiellement à Metz, à une quinzaine de kilomètres à peu près, demande très officiellement la restitution de corps d'officiers et de soldats qui sont encore en territoire français, juste derrière la frontière. Et donc l'armée française va accepter, et bien, il va y avoir tout un cérémonial qui va se mettre en place, à savoir le déplacement d'une unité militaire allemande, prussienne, qui va traverser la frontière en grand apparat, reçue bien sûr par l'armée française, et on va procéder à l'exhumation des corps de ces hommes qui sont en fait sous un petit monument. Donc Léon Goulette, lui, il est journaliste. Il relate ça dans pas mal d'articles de presse de l'époque. Et il a fait carrément cette petite monographie d'une vingtaine de pages avec quelques photos. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Le 17 juin 1893, à 8 h du matin, à l'extrême limite de la frontière tracée par le traité de Francfort, des généraux, non les moins éminents, et les soldats d'Allemagne et de France, les générations militaires composant l'avant-garde des deux nations, se sont entrevues dans un éclair au scintillement des baïonnettes. Là où ça devient intéressant, c'est qu'il décrit le processus de translation de ces corps. Et sur le terrain, il faut imaginer qu'il y a plusieurs milliers de badauds qui sont là pour assister à l'événement. N'oubliez pas qu'un peu comme à Gravelotte, dans les champs, à ce moment-là, il y a des sépultures absolument partout, hein, puisqu'il y a eu plusieurs milliers de morts pour cette bataille. Donc les corps qu'on va déterrer le seront pour la seconde fois. En effet, le lendemain de la bataille, on avait creusé des fosses un peu partout à la hâte. Voilà, c'est ce qu'on voit encore sur Gravelotte. Mais ces derniers gîtes avaient été soigneusement marqués et après la guerre, le régiment empereur Alexandre fit relever et réunir dans une même sépulture, sous le monument de Saint-Aille, les restes des officiers susnommés et de plusieurs simples grenadiers inconnus. Les ouvriers creusaient la terre à coups de pioche. Des débris de cercueils étaient au jour et on en relevait un grand nombre d'ossements qu'on jetait dans les bières neuves dont le fond était tapissé de copeaux. Les pioches heurtaient de temps à autre un crâne ou un tibia et le fer sonnait. Les bières s'emplissaient pêle-mêle de mâchoires, de débris d'étoffes, d'os de toutes formes et de toutes dimensions, de semelles, de boutons. Et quand les cercueils devenaient petits, on forçait un peu leur contenance en appuyant sur les os qui se brisaient. Donc vous voyez qu'il y a quand même une différence entre tout l'apparat et toute cette grosse cérémonie qui se fait de façon très officielle. Et puis par contre, le travail d'exhumation lui-même se fait vraiment au petit bonheur la chance, à la pelle, à la pioche, on brise les os, on éclate les crânes, on met tout en vrac dans les cercueils qu'on a prévus à l'avance. Et puis bah, si ça ne rentre pas, bah, on tasse largement, on brise, etc. Mais il faut que ça rentre absolument, quoi. Donc on est loin quand même de tout ce qu'on entend aussi aujourd'hui, tout ce qu'on a en tête, à savoir l'éthique, la morale, le soin qu'on peut prendre pour les combattants de son camp en plus, après leur décès. Tout à coup, le sous-préfet de Briey se penche plus attentivement sur la fosse, et là, horreur, l'officier prussien s'avance, on regarde, il y a un lambeau de drap rouge qu'un ouvrier vient de déterrer. Il y a un soldat français qui est perdu au milieu des soldats prussiens. Voilà. Donc lui, on ne l'avait pas prévu du tout. Donc vous voyez sur la photo d'en bas, on avait prévu des très beaux cercueils pour les soldats prussiens, hein, puisque c'était donc prévu bien à l'avance. Et puis bah, pour le petit soldat français, zut, on n'a rien prévu pour lui. Et bien qu'est-ce qu'on fait? On va dans une ferme à côté, on récupère une caisse. Et on met la caisse à côté des beaux cercueils, et bah, le français, lui, il a droit à une caisse, tout simplement. Donc on la voit bien juste ici, au bout des cercueils. Voilà. Là, on a une simple caisse en bois. Donc les restes des Allemands reposent dans 6 bières peintes en noir avec une croix blanche, une caisse rectangulaire préparée à la hâte, renferme les restes du français reconnu la veille. Donc tout ça va être chargé sur les corbillards et ramené à la frontière où ils recevront une sépulture définitive. Le français lui-même va aller jusqu'à Mars-la-Tour et va être enterré avec une petite cérémonie par le curé de la commune. Là où c'est intéressant aussi, c'est que dans certains articles de journaux, Léon Goulet explique le fracas justement des crânes qui explosent sous la pioche, etc., devant tout le monde, hein, ça choque absolument personne, tout le monde s'extasie sur le tissu est bien conservé, etc. En fait, c'est ce que j'entends des fois en fouillant des sépultures de guerre actuellement, les gens s'étonnent toujours qu'on puisse retrouver des lambeaux d'uniformes, par exemple, et donc là, les badauds, voire même les officiels se font les mêmes réflexions. Et puis, Léon Goulet explique lui-même que, bah, comme il va retourner à Paris pour voir son rédacteur en chef, eh bien, il va prendre quelques morceaux d'uniforme lui-même dans le cercueil. Il va prendre des boutons, etc., pour faire voir à son patron. Il va prendre un ossement et va tout ramener à Paris. Donc, on va passer à la seconde guerre récente pour la Lorraine, à savoir celle de 14-18. Puisque là, c'est une observation qui est beaucoup plus récente et qui va se passer donc à peu près à 20 km au nord-est de Verdun, dans une commune qui s'appelle Spincourt, et où situation un petit peu. Donc pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu la Meuse, c'est entre Étain et Longuyon, donc assez proche de la frontière. En fait, en 2017, nous avons procédé à des sondages de diagnostic préalablement à la vente de quelques parcelles qui devaient être viabilisées pour être vendues comme parcelles à construire. Donc par un petit agriculteur, M. Benoît Duché. Donc, aux surprises, dans chaque sondage, eh bien, sont apparues des fosses, hein, avec pour certaines des ossements ou des contenants en bois qui étaient visibles dès le décapage. Voici un bel exemplaire à droite. Vous voyez que vous avez une fosse qui est assez longue quand même, et puis dans celle-ci, vous avez un petit contenant qui est jeté un petit peu pêle-mêle, comme ça, sur le côté, un peu en oblique. Donc on a bien sûr échantillonné deux ou trois pour essayer de voir un peu caractériser au niveau datation et voir s'il y avait des connexions, à quoi ça correspondait. Donc on a repris cet exemple-là. Donc, et puis, une fois ramené au labo, nettoyé, voilà ce que ça représente. Donc vous avez effectivement l'image d'un soldat, puisqu'il y a une partie du mobilier qui est conservée. Et vous voyez quand même qu'il y a quand même une bonne partie du corps encore conservée sur place. Donc on ne s'attendait pas du tout à trouver ces fosses sépulcrales. On a fait bien sûr, du coup, pour le rapport de diagnostic, quelques recherches auprès du service des sépultures militaires qui nous a fourni un registre et un plan en nous disant que, bah, effectivement, 100 ans avant, il y avait eu un cimetière, mais qu'il avait été totalement vidé, vidangé, translaté, et qu'il n'y avait plus un seul corps. Et donc, du coup, effectivement, ce cimetière avait été totalement oublié à partir de 1924, puisqu'officiellement, il n'y avait plus rien. Le terrain était rendu en parcelle agricole. Donc, vous avez, entre autres, à droite, tout en bas, le numéro de la sépulture, puisqu'il y avait des petits piquets avec des plaques en plomb, des plaques numérologiques. Voici à quoi ressemble ce cimetière en 1921. Et donc, il s'agit d'un cimetière de regroupement qui a été créé en 1919, donc après-guerre, pour regrouper les diverses sépultures et corps qui traînaient un peu partout sur les champs de bataille. Et ça, dans le but, en attente en fait, simplement dans le but de les translater une dernière fois dans les nécropoles définitives qu'on connaît aujourd'hui. Alors, les quelques documents qu'on a pu avoir, donc un vague plan de situation, le cimetière est là, à la sortie de la commune, le plan du cimetière, avec les numéros de sépulture et le registre lui-même. Donc ça, c'est pas mal pour travailler après, pour essayer de comprendre la gestion des corps et surtout, éventuellement, leur redonner un nom pour certains, si certains ont été oubliés. Essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, ce cimetière contenait 617 tombes pour 864 corps au départ. Donc ça explique bien qu'en fait, que parmi les contenants, eh bien, il y en a qui conservent plusieurs individus. On va voir que des fois, il y en a vraiment beaucoup. Donc, regroupement des corps à partir de 1919, des soldats tués au combat dans un rayon d'à peu près 21 km. Donc, quel est le type de recrutement? Eh bien, déjà, ce sont les corps de soldats restés sur les champs de bataille, puisqu'à partir de 1919, on va dépolluer les terrains et on va retrouver régulièrement des corps isolés dans les no man's land, au fond des tranchées. Un petit exemple, on voit que sur le secteur de Spincourt, eh bien, il est indiqué sur un corps trouvé sur le territoire de Lexy, en Meurthe-et-Moselle, réinhumé au cimetière militaire de Spincourt. Eh bien, divers papiers ont été trouvés au nom de Feugère. Et donc, on lance un appel pour tous ceux qui pourraient avoir des renseignements complémentaires pour identifier ce soldat. Voilà, donc ça, c'est en date du 5 juin 1923, le journal de l'ancien combattant. Donc après, il y a les tombes isolées qui sont sur les champs de bataille même, puisque au début de la guerre, on continue un peu comme à la mode de 1970, et on a tendance à inhumer sur les champs de bataille directement. Juste après, à côté de là où le soldat est tombé, tout simplement parce que la guerre ne va pas durer. Hein. Normalement, trois mois après, on est tous rentrés à la maison tranquille. Hein. Dans les deux camps, on se dit la même chose. On sait malheureusement que ça ne s'est pas passé comme ça. Donc voici un bel exemple sur ce parcours même. En plein dans un champ, bien, vous avez une carte postale allemande avec une sépulture d'artilleur français. Donc, qui sont les exhumateurs? Eh bien, il y a des entreprises privées, bien entendu. Voici un bel exemple. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'ils posent avec tous leurs outils. En fait, on en a retrouvé beaucoup de ces outils dans les sépultures, soit sous les cercueils, soit par-dessus les cercueils. En fait, dès qu'un manche cassait et autres, on jetait l'outil dans la tombe, pas de problème. Hein, on retrouve tout ça en fouille. Vous avez aussi l'armée qui procède à des exhumations. Là, vous avez d'ailleurs un contrôleur avec son chien. Et puis, vous avez bien sûr des personnels issus des locaux, mais aussi les indigènes, hein, ceux qui étaient dans les troupes coloniales et qui ne sont pas repartis au pays après-guerre et qui, pour subsister, prennent les petits boulots un peu partout et prennent aussi, bien sûr, les sales boulots, se retrouvent Exhumateur. Donc, les corps sont d'abord enterrés proche du champ de bataille, déterrés à partir de 1919 jusqu'en 1924 et translatés à Spincourt. Donc, ils arrivent déjà décharnés. Hein, ce sont des ossuaires que l'on va trouver. Et puis, à partir de 1924, en 1924, on va redéterrer officiellement tout ce cimetière et retranslater les corps à Pierrepont, à 9 km de là, dans cette nécropole encore en place, puisque c'est une nécropole définitive, hein, donc de Pierrepont. Donc, en fait, tous les hommes inhumés à Spincourt ont une croix ou sont dans l'ossuaire de ce cimetière aujourd'hui, officiellement. Donc, une prescription de fouille a été posée et donc nous sommes retournés en 2017, procéder donc à cette fouille. Là, vous voyez quelques photos du décapage. Et puis, voilà, la fin du décapage, vous avez un bel ensemble funéraire. Hein, on a bombé chaque sépulture pour voir un peu la répartition, puis que ce soit plus visible sur la vue aérienne. Donc, il faut savoir qu'on n'a pas le cimetière complet, puisqu'il déborde largement en bas. On a à peu près, on estime à peu près 200 sépultures dans la parcelle inférieure, sous un parking d'entreprise, mais qui, effectivement, les travaux n'ont pas touché les sépultures, qui sont plus profondes. Donc, les tombes sont toujours là. Et puis, la petite route que vous avez à gauche, ici, eh bien, en fait, au départ, c'était un chemin de terre qui a été doublé. Et donc, la première rangée de sépultures est toujours là, mais sous la route, aujourd'hui. Il faut savoir aussi que, ça ce sera la deuxième partie, mais qu'en fait en face, dans la parcelle qui est ici, eh bien, en fait, il y avait aussi un autre cimetière qui lui date de la guerre elle-même, qui a fonctionné de 14 à 18, et qui est le cimetière allemand, militaire allemand, puisque la commune a été occupée pendant tout le reste de la guerre. Donc les résultats de la fouille, nous avons pu fouiller 425 structures funéraires, dont 325 contenaient encore des os humains à l'intérieur, donc 76%. Alors ça va de quelques os à des corps complets, voire de nombreux corps par contenant. C'est extrêmement variable. Tout ça, donc ces corps sont contenus dans 249 cercueils et on a aussi 123 ossuaires. Donc les cercueils, je les ai comptés à partir d'un mètre cinquante de longueur. Alors, effectivement, il fallait faire un choix, sachant qu'il y a aussi des petites personnes, on va dire, qui parfois combattent également. Donc, ça a été cette logique que j'ai pris en compte. Et en dessous d'un mètre cinquante, j'ai comptabilisé ça en simple ossuaire. Donc, c'est des caisses qui vont jusqu'à 90 cm de long, simplement parfois. Et donc, il y a 53 contenants indéterminables. Il y a simplement aussi, dernier chiffre, il y a 231 structures avec du mobilier militaire encore en place et 125 avec du mobilier civil. Donc, je dis, là, pour l'instant, on n'en est vraiment qu'au tout début de l'étude. Hein. C'est vraiment les premiers résultats. Donc, à quoi ressemblent ces sépultures? Eh bien, vous avez des cercueils plus ou moins bien conservés, suivant leur profondeur. Mais ici, vous avez un exemple où il n'y a pas grand-chose. Il y a un os en haut. Vous avez ici un numérus. Et à côté, il y a les restes d'un porte-carte, hein, voilà, donc de fichier. Mais là, vous avez un simple numérus qui traîne. Et il n'y a plus rien dans le reste de la sépulture. Là, vous avez un peu plus. Donc, dans le premier cas, les exhumateurs, on va dire que voilà, ils ont bien fait leur travail. Hein. On peut oublier un os, voilà, vu les conditions. Là, vous aviez deux individus. Vous voyez que le tri et le travail étaient un peu plus rapides, déjà. Et vous avez aussi ce type de cas où vous avez six crânes à une extrémité et puis sur le reste du coffre, eh bien, vous voyez que les exhumateurs sont passés, effectivement, ont récupéré tous les petits os, etc. Mais étonnamment, il reste les crânes à l'extrémité. Quoi. On a quelques exemples de corps qui sont de tombes individuelles où on voit bien que les corps sont arrivés en état de décomposition assez avancé, mais ils n'étaient pas totalement décharnés puisqu'on a encore pas mal de connexions. Et là, par contre, celle-ci n'a pas été réouverte en 1924. Donc ça, vous avez la vision de l'exhumation de 1919, on va dire. Hein. Ce qui a été récupéré dans la première sépulture. Mais ça peut aller très loin et être beaucoup plus complexe. Vous voyez que ce coffre est plein. Dans celui-ci, je crois qu'il y avait 7 ou 8 personnes, 8 individus. Voilà. Et ça va jusqu'à une douzaine. Pour l'instant, quand je dis individus, je m'entends, le travail n'ayant pas encore été réalisé au niveau anthropologique, 12 crânes. On va s'arrêter là pour l'instant. Est-ce qu'il y a vraiment 12 individus représentés à peu près dans leur intégralité ou pas, etc. Qu'est-ce qui, je ne pense pas. C'est pareil, le travail des fossoyeurs au moment de la translation de la première tombe à cette sépulture secondaire, il y a déjà dû y avoir une perte assez importante osseuse. Et donc tout le travail va jouer là-dessus aussi, à savoir qu'est-ce qui a été récupéré dans la première sépulture. On a du mobilier, vous avez ici une baïonnette qui était posée sur les ossements, et en fait à la fouille on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une barre de bois qui avait été posée en travers et donc qui formait croix sur les ossements. Donc vous avez aussi quelques gestes comme ça qui sont observables au niveau des pratiques funéraires d'après-guerre. Bien entendu, du mobilier, donc mobilier militaire, comme ici avec des cartouchières pleines. Par exemple, vous avez les paquets de cartouches encore en place. Vous avez un très joli canif de foyer de la Marine nationale, avec la devise de la Marine nationale. Et en fait, il y a tout un mécanisme à l'intérieur avec des molettes, et vous pouvez faire apparaître les jours qui vous restent à passer à l'armée. Hein. Donc pour le persan, tout simplement. Vous avez bien sûr des galons, des objets en relation donc, avec l'uniforme lui-même et le grade de la personne. Donc on a eu la surprise de découvrir aussi qu'une plaque d'identité militaire américaine de la Première Guerre mondiale, tout simplement, puisque dans ce cimetière, il n'y avait pas que des Français, il y avait aussi deux Américains, il y avait quatre Russes et deux Italiens. Et donc nous avons retrouvé, reciblé une de ces sépultures américaines grâce à cette plaque. Et donc c'était donc la tombe de Mathias McGoggey. Un simple soldat de l'Illinois qui est reparti en 1921 par bateau dans son pays. Sauf que dans la Meuse, il a toujours ses pieds et puis une partie de ses ossements et sa plaque d'identité militaire. On a eu également la surprise de découvrir, mêlé aux ossements français, bien aussi du matériel militaire allemand. Ce qui peut s'expliquer tout simplement par les ramassages, on va dire, de surface ou de fosses communes, de corps mélangés dans les tranchées et autres après-guerre. Et donc, bien sûr, les exhumateurs n'ont pas trop trié. Et donc, on se retrouve, en fait, probablement aussi dans certains des cercueils avec un mélange de combattants français et allemands. Et aussi, en surface, on a tout un ensemble d'observations liées aux marqueurs. Donc les perles de couronne funéraire, on a une stèle, une plaque funéraire en marbre marquée Louis Chaumont, 330e d'infanterie, qui pose problème puisqu'il n'apparaît pas dans le registre militaire. Et c'est une belle histoire que je vous raconterai peut-être une autre fois, mais on est dans les films Revoir là-haut et entre la vie et rien d'autre, hein, avec les problèmes d'exhumation, de récupération de corps après-guerre en catimini la nuit par les familles, etc. Donc il y a plusieurs histoires comme ça qu'on a pu corréler entre les observations de terrain et certaines familles qui nous ont contactés. Donc à la fin de la fouille, donc on avait fait ces 425 sépultures, on s'est rendu compte que bien ici et sous nos sépultures françaises, à peu près 1,20 m, 1,30 m de profondeur sous les sépultures françaises, on avait d'autres fosses. On a bien sûr sondé et on a retrouvé des cercueils qui étaient dans une orientation perpendiculaire, hein, totalement dans l'autre sens, perpendiculaire aux tombes françaises, à 1,30 m en dessous. C'est là que donc on s'est rendu compte qu'il y avait un autre cimetière qui débordait dans la parcelle d'à côté, chose absolument pas prévue. Et donc là, la fouille préventive ayant été terminée, on ne pouvait pas continuer dans le même cadre. Donc on a monté une petite opération de fouille programmée avec Michel Signoli de l'Université de Marseille, Yves Desfossés qui était avec nous aussi, bien entendu. Et puis donc nous y sommes retournés fin 2018, une petite opération d'une dizaine de jours, et nous avons fouillé une quarantaine d'inhumations qui en fait appartenaient au cimetière militaire allemand installé pendant la guerre, pendant l'occupation allemande du village. Donc, moi, je m'attendais, voici la seule photo qu'on a de ce cimetière allemand, qui est contre le mur que vous voyez au fond, ici, c'est le mur du cimetière communal, hein, avec la petite chapelle du cimetière communal qui est ici, par exemple. Et donc, c'était dans la parcelle, contre cette limite d'espace consacré. Et donc, je m'attendais surtout à trouver, bien entendu, des tombes de soldats allemands. C'était prévu comme ça, si je puis dire. Et en fait, surprise, on est tombé dans autre chose. Alors déjà, une vue de détail de cette petite fouille programmée qui a duré 10 jours. Donc on a les cercueils assez bien conservés, on est assez profondément... On a au milieu, le vide que vous voyez au milieu, c'est l'allée centrale du cimetière. Et en fait, on a une rangée, deux rangées, et de ce côté-ci, pareil, on a deux rangées. Hein. La première rangée n'est pas sur la photo. Vous avez la rue qui est à côté, et qui est donc... Le cimetière se développe sous cette rue et dans la parcelle de derrière. Et donc là, nous avons travaillé dans assez bonnes conditions, puisque première phase préventive, en fait, on a eu droit à toutes les intempéries possibles et imaginables. Hein, on a fouillé, je ne vous ai pas dit, mais du 6 novembre au 15 décembre, donc dans la Meuse, c'est extrêmement sympathique. Que là, nous sommes réintervenus, on a eu de la chance au mois d'octobre, puisqu'on a eu du très beau temps, et donc on a pu faire de plus amples observations. Donc première observation, c'est que ce ne sont pas des sépultures. C'est bien les sépultures du cimetière allemand, mais ce sont des tombes de soldats français. En fait, on est tombé sur le carré français du cimetière allemand. Ce sont des corps de combattants qui sont arrivés en état de décomposition très avancé et qui sont probablement, vu les restes d'uniformes et les observations taphonomiques qu'on a pu effectuer, des corps de combattants liés à la bataille de Spincourt même. C'est le 25 août 14, et ce sont des corps qui ont dû être récupérés peut-être un mois, deux mois après, dans les blés, puisque l'armée allemande s'est installée, et donc à un moment donné, ils ont nettoyé les champs de bataille, et ils ont rapatrié une partie des soldats français qu'ils ont trouvés un peu partout, qui pourrissaient dans les fourrés. Donc on a découvert 38 inhumations supplémentaires. Il y avait 28 défunts complets, hein, puisque l'histoire est complexe. Je vais vous resituer vite fait, refaire une petite chrono, stratigraphie. De 14 à 18, les soldats allemands s'installent sur la commune, créent leur propre cimetière, que voici, une partie en tout cas. En 1919, les Français arrivent, reprennent bien sûr la commune, commencent à translater les tombes de soldats allemands dans un autre cimetière, toujours à Pierrepont également, et puis apparemment laissent les tombes de soldats français puisqu'ils ont prévu déjà dans cette parcelle de réinstaller un nouveau cimetière de regroupement, hein, celui avec les 425 tombes qui va être au-dessus. Donc pourquoi exhumer des soldats français qui sont à 2 mètres de profondeur à peu près pour les remettre 1 mètre au-dessus? On fera, donc j'imagine qu'ils se sont dit bon, on fera tout ça dans 4-5 ans en même temps, sauf que 5 ans après, celles qui étaient en dessous ont été totalement oubliées. Voilà. Donc on se retrouve avec ces tombes de combattants, et donc 28 défunts complets, 4 squelettes résiduels et 8 cercueils vides. Donc parmi les observations, bien entendu, on a retrouvé entre autres un combattant porté disparu en août 14, et c'est un Meusien, donc en fait il était à 20 km à peu près de chez lui, ce pauvre homme. Donc on est en train d'essayer d'affiner l'identification, et après on préviendra la famille. Et puis surtout, ce qu'on a observé, c'est que les corps, pour une part en tout cas, ont été recomposés. Comme ils les ont récupérés en état de décomposition extrêmement avancé sur le terrain, eh bien, parmi les gestes qu'on a observés, c'est la recomposition de certains de ces décors. À savoir, par exemple, on a un soldat qui a deux jambes droites, deux membres inférieurs droits. On en a un autre qui a un bras droit français et un bras gauche allemand. Simplement parce que le bras gauche est dans une veste allemande, et ainsi de suite. On a comme ça des recompositions de cadavres. Hein, on leur a redonné une image, si je puis dire, assez présentable. Et voilà. Ce genre de choses qu'on, effectivement, dans les textes, on n'a absolument pas, hein, jamais. Voilà donc les principaux apports, puisque je vais terminer. Donc, c'est observation sur la gestion des corps après-guerre, bien sûr. On va pouvoir travailler sur tout ce qui est périmètre de récupération des corps. Le pourcentage des os récupérés dans la première sépulture. Donc ça, en observant les tombes qui n'ont pas été réouvertes en 1924, on a la vision de ce qui a été translaté de la sépulture primaire à la secondaire. Et on va pouvoir faire la même chose dans les tombes qui ont été réouvertes pour être une nouvelle translation, voir qu'est-ce qui est arrivé dans la sépulture tertiaire et définitive. En gros, qu'est-ce qu'il y a sous la croix blanche où il y a le nom du soldat aujourd'hui. Alors des fois, on n'a que quelques ossements qui sont restés à Spincourt, donc on peut penser qu'il y a une grande partie du squelette qui est arrivé dans cette sépulture définitive. D'autres fois, on a encore la moitié du corps, et parfois, on a un corps complet. Donc, qu'est-ce qu'il y a réellement sous la croix blanche? Ça, c'est une question que se posent aussi, d'ailleurs, les autorités à ce sujet. Ça commence beaucoup à les surprendre, puisque en fait, on a fait plusieurs observations en France, dont celle de Bout-sur-Suy, puis Soupir avant, et à chaque fois, on retombe sur le même schéma. Ce qui pose de gros problèmes, effectivement. Donc les observations taphonomiques et traumatiques, donc traumatiques liées au combat, les causes des décès, mais on a aussi tout ce qui est lié, les traumatismes post-décès, puisqu'on a tout ce qui est lié au travail des fossoyeurs aussi. On a les coups de pioche, de fourche, de pelle, etc., qui sont bien visibles sur les ossements. Et puis, bien sûr, on va aller jusqu'à l'identification des défunts, certains ayant déjà une tombe définitive, donc comment ça va se passer, et d'autres étant portés disparus depuis 1914. Et là, on a plusieurs cas d'identification formelle. Je vous ai mis d'autres diapos pour vous faire voir que là, on parle d'exhumation un peu rapide il y a 100 ans, mais en fait, malheureusement, ça se fait toujours aussi, et pas que dans le militaire. Hein. Donc, deux diapos, et après, c'est terminé. Je vous ai fait voir le cas d'exhumation par la gendarmerie. Alors, bien sûr, c'est jamais toujours la même chose, on est d'accord, des fois ça se passe bien, mais il y a aussi ce genre de problème. À Fleury-des-Vendômes en 2013, moi j'avais été réquisitionné par le procureur de la République, et les gendarmes ont procédé en fait à l'exhumation de corps qui étaient empilés, en fait une morgue provisoire dans le village disparu de Fleury-des-Vendômes. Au début ça s'est fait à la main, comme ça en tirant les ossements, en les mettant à côté, et puis après ils ont fait intervenir une mini-pelle mécanique, et la fosse a été creusée en son milieu. Tout jeté dans les sacs poubelles, et moi j'étais réquisitionné avec le médecin légiste de Verdun. On était donc à l'hôpital, pas sur le terrain, et on réceptionnait les sacs toutes les heures. Il y a les gendarmes qui nous apportaient les sacs plein d'ossements et de matériel. Il fallait qu'on travaille là-dessus, dire voilà combien de personnes, faire les appareillements, etc., le plus rapidement possible. Et donc vous voyez qu'on est toujours un peu dans le même schéma, sachant que ça a duré 2 jours. Et au bout de 2 jours, le procureur a dit bon, bah, on ne va pas aller plus loin, on ne va pas y passer la semaine, c'est bon, on en a suffisamment comme ça. Et ça a été rebouché. Aujourd'hui, il y a un monument par-dessus pour sceller la chose. Mais il y a des corps dont bah, que la pelle mécanique a accroché par les jambes. Par exemple, tout le reste est encore sous terre, enfin, et ainsi de suite. Hein. Donc on a des morceaux de corps pour la plupart. Donc on avait 26 personnes. Et on a déterminé qu'il y avait au moins 26 corps dans ce qu'on a récupéré. Il y en a peut-être 100, on ne sait pas. Il y en a encore en dessous, sur les côtés. Et on a identifié que 7 personnes, du coup, vu les conditions de travail. Et puis, dans le civil, eh bien, en fait, ça arrive aussi. Pour cette diapo, je vous ai fait avoir un détail d'une sépulture récente. Parce que vous voyez que, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que vous voyez, on n'a pas forcément l'habitude de voir ça, même moi. Ici, vous avez les planches du cercueil, vous avez ici une robe à fleurs qui dépasse, et une jambe avec le pied, et en fait, il y a des bas engagés autour de la jambe. Ça, c'est un diagnostic fait sur un cimetière de la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres, puisqu'elles ont dû, vu que maintenant, il y a des normes européennes au niveau des maisons de retraite, les EHPAD et autres, en fait, un peu partout, les congrégations religieuses qui ont des maisons de retraite et des petits cimetières à côté, revendent tout leur terrain, y compris les cimetières, demandent la translation soit par les communes, soit par les entreprises privées, pour revendre les terrains et pouvoir normaliser, moderniser leur maison de retraite, enfin, pour faire un peu de rentrée d'argent. Et donc là, on est dans ce cas où la commune de Metz avait officiellement, moi j'ai vu le papier signé, etc., comme quoi ils avaient translaté tout le cimetière, donc avec 250 corps de laïcs, des indigents qui meurent donc à la maison de retraite, les Petites Sœurs des Pauvres et les religieuses elles-mêmes. Et bien, en fait, chaque sondage était, donc il devait y avoir un lotissement par-dessus, chaque sondage était absolument plein, positif. Donc cette petite robe à fleurs a été datée par une styliste. On est dans les années 70. Hein. Et deuxième cas en Lorraine, là c'est une entreprise privée qui a travaillé à la translation. La congrégation, c'est Saint-André-de-Peltre. Donc c'est tout récent comme sondage. Et vous voyez qu'il y a des sépultures qui apparaissent un peu partout en fond de sondage. Et effectivement, le mobilier, là j'ai fait quelques prélèvements de mobilier, essentiellement sur les poignées de cercueil. Celle d'en bas, par exemple, la noire, là, c'est du plastique moulé sur une armature en fer qui est toujours en vente sur Internet. C'est une entreprise de Pékin qui les vend. Hein, donc vous voyez que c'est extrêmement récent. Donc qu'est-ce qu'on en retire comme conclusion? C'est que lorsqu'on doit travailler sur un cimetière, qu'il soit civil ou militaire, est censé être vide depuis 100 ans ou depuis 15 ans, eh bien en fait, méfiez-vous, il y a toutes les chances, toutes les probabilités en tout cas, qu'il y a encore énormément de corps en place, et ce qui pose le problème de qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Hein, on parlait de problèmes éthiques hier, ben on est en plein dedans. Voilà, je vous remercie beaucoup.